7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Comme chaque mois, la parole est à ceux qui veulent entreprendre en Afrique. Jeunes diplômés ou moins jeunes, vous avez un projet pour le continent, vous vous sentez entrepreneur, mais ça ne suffit pas toujours. Vous avez des difficultés pour réaliser votre projet, eh bien je vous présente, à ma droite, dans le studio, le coach. Bonjour Didier Akwété.
Bonjour Emmanuel.
Et bonne année 2015. Longue vie à Afrique Search, votre société de conseil en ressources humaines. Alors justement, vous conseillez régulièrement dans cette émission les voisins et les voisines sur tout type de projets, hein, que ce soit l'agroalimentaire, l'informatique, les projets sociaux, les projets culturels. Vous aimez bien qu'on vous surprenne.
Ça fait du bien de temps à autre.
Un seul numéro de téléphone pour les auditeurs et les auditrices, 33 1 84 22 71 71. L'essentiel pour vous, les voisins, c'est d'être clair, synthétique, de poser vos questions à Didier Akwété. Didier, vous écoutez, vous critiquez, vous conseillez.
Et j'engueule parfois aussi.
Et vous êtes le coach chez 7 milliards de voisins une fois par mois sur RFI. Je vous rappelle le numéro 33 1 84 22 71 71.
Vous avez du talent et vous souhaitez transformer le continent. Je suis sur RFI tous les mois dans 7 milliards de voisins pour vous aider à réaliser vos projets. N'attendez plus pour entreprendre. Envoyez-moi dès maintenant vos projets à 7milliards@rfi.fr. On veut des jeunes qui y croient, qui ont envie d'être des patrons et de diriger l'Afrique demain.
Didier Akwété, l'actualité, Afrique Talent à Paris, c'était la semaine dernière, des diplômés rencontrent des entreprises pour le marché africain. Quelles sont les dernières tendances? Moi, j'aime bien savoir.
Salon Afrique Talent était à sa 15e édition parisienne, avec toujours autant de succès, si je puis m'exprimer ainsi, puisque un peu moins d'un millier de candidats étaient invités, une quinzaine de grosses entreprises qui ont cette particularité de recruter des candidats qui ont cette culture du marché africain et qui peuvent s'y installer durablement et y rester. Ça veut dire que les entreprises ne sont plus dans ce qu'on appelait avant faire des coups, mais sont là pour s'y implanter durablement, un petit peu aussi à la faveur de cette croissance africaine qui devrait en principe durer. Donc c'est bien.
Ça, vous le ressentez très nettement dans ce que vous racontent les entreprises, les DRH qui viennent recruter Afrique Talent.
On le ressent assez avec justement des plans de développement humain qui s'inscrivent également dans la durée, c'est-à-dire les entreprises recrutent maintenant se disant comment on fait pour les garder, un petit
garder
peu à l'instar
les
de
les élites africaines formées à droite à gauche pour les grandes entreprises.
Exactement, et puis pour les entreprises africaines de plus en plus, un petit peu comme le forum des PME où vous sonnez, que nous avions organisé il y a quelques semaines. Donc,
à Dakar.
On sent qu'il y a une dynamique des entreprises et même des candidats qui veulent s'installer durablement sur le continent ou rentrer et s'y installer, voire créer des activités, puisque certaines des questions des candidats également, c'était de savoir si des entreprises n'avaient pas des projets d'externalisation d'activités pour eux-mêmes, pourquoi pas lancer des activités en Afrique. Donc je crois que c'est une tendance de fond qui est intéressante.
L'arme entrepreneur aussi.
Et qu'il faut consolider.
Vous savez que chez 7 milliards de voisins, on s'intéresse quand même beaucoup aux jeunes. Quels sont les secteurs et puis avec quel niveau de qualification et d'expérience on peut envisager là de recruter des jeunes diplômés?
Oui, les jeunes diplômés sont recrutés. Alors, il y a aussi une autre tendance de fond, c'est que ce n'est plus simplement le niveau du diplôme qui compte, parce que l'apprentissage ivresque, c'est bien, mais après, votre capacité à vous adapter, on le dit souvent, à entreprendre, à apprendre, vraiment, ce sont des éléments sur lesquels les entreprises vont insister, et les candidats eux-mêmes, faut qu'ils le comprennent, parce que l'entreprise bouge vite, les marchés bougent vite, se transforment rapidement, donc il faut aller au-delà de simplement du diplôme ou du stage, mais vraiment, on teste de plus en plus...
Voilà, les secteurs porteurs pour les jeunes diplômés qui nous écoutent ou qui sont diplômés depuis quelques années, mais depuis pas très longtemps.
Bah, on prend par exemple la distribution ou même les télécoms. Regardez les mutations dans la téléphonie mobile. Le téléphone, ce n'est plus du tout fait pour téléphoner, mais c'est vraiment un outil pour vivre au quotidien.
Et payer comme, ses factures, etc.
Exactement, comme les Kenyans l'ont si bien fait, ou même dont la distribution aussi va évoluer avec cette montée en puissance des classes moyennes qu'on devrait observer. L'éducation elle-même va changer aussi complètement de format. Donc en fait, il y a beaucoup d'innovations qui vont arriver dans différents secteurs.
Ouais.
Et c'est pour ça
donc,
qu'on
ça
demande
bouge
de
sur le marché du recrutement pour les gens. Voilà, adaptabilité et puis bonne qualification. Malgré tout, voilà, Didier, vous êtes prêt ? Dans quelques instants, je vais envoyer le numéro de téléphone. On commente et on décortique un premier projet.
Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un premier projet. Nasser, 34 ans, Amsterdam. Bonjour Nasser.
Bonjour madame.
Nasser, vous êtes ivoirien, vous vivez depuis plusieurs années aux Pays-Bas. Votre parcours, en fait, vous dirigez à l'heure actuelle une petite entreprise de transport de personnes âgées aux Pays-Bas, qui couvre d'ailleurs Amsterdam et sa banlieue. Et votre projet est assez bien vu, créer une filiale en Côte d'Ivoire, puisque c'est votre pays d'origine, mais de transport scolaire. Là, vous avez bien perçu le contexte démographique bien différent en Côte d'Ivoire par rapport à l'Europe. Expliquez-nous un peu.
Comme vous l'avez dit, je compte créer une entreprise dans le domaine du transport des enfants à l'école en Côte d'Ivoire. Les enfants se retrouvent chaque matin à une place que je nomme la place A. Mmh. Le cas allait prendre la place A, la place B qui est à l'école.
Ouais.
Et durant toute la journée, le cas il reste garé.
Mmh.
Puisque les enfants mangent à la cantine. Et le soir, ils les ramènent à la place A. Le cas ne bouge pas et les cas ils ont une très longue durée de vie et moins de consommation et c'est un projet qu'on peut vraiment essayer de bien suivre un peu à distance.
Le transport scolaire en Côte d'Ivoire existe, qu'est-ce que vous allez proposer de plus ?
Quand j'étais parti sur le terrain en 2014, dans le mois d'avril passé pour essayer de voir un peu le terrain, j'ai vu que des parents qui avaient beaucoup de difficultés avec des camions qui tombaient en panne sur la route, que les élèves étaient en retard, les cours étaient perturbés.
Mmh.
Ben moi je viens cette fois-ci avec une nouvelle idée,
mmh,
plus de place, de nouveaux cas et la création d'un garage pour s'occuper des cas, une bonne maintenance. Et la communication surtout avec les élèves, les parents et l'école, et aussi avec les chauffeurs.
Mmh.
Pour moi, c'est un aubaine de créer des emplois pour les frères et aussi surtout aider les jeunes à évoluer dans leur parcours scolaire.
Et le modèle économique, vous pensez que ça, vous pouvez dégager des bénéfices avec le transport scolaire ? Comment vous allez faire payer les élèves ?
Puisque j'étais là-bas, les renseignements que j'ai pu sur le champ dans des grandes écoles en Côte d'Ivoire, c'est que chaque mois, les frais sont versés à l'école et l'école paye les transports qui sont en place.
Mmh. Donc, avec, en fait, vous ressentez une relative sécurité, finalement, de paiement avec ce système.
Oui, je sens vraiment une relative sécurité de paiement avec ce système. Mmh. Et donc, si j'ai un cas qui transporte 50 personnes, avec 50 personnes, ça peut me faire au moins 1 million de francs CFA par cas. Avec 5 cas, ça peut me faire 5 millions. Donc, je peux essayer de m'organiser, payer bien les chauffeurs. Parce que même si des gens payent les chauffeurs en Côte d'Ivoire à 60 000 francs, moi, je paierai mes chauffeurs à 80 000 pour leur donner vraiment de la motivation et prendre au sérieux ce que nous sommes en train de faire.
Mmh. Mais le prix des trajets, vous ne comptez pas casser les prix par rapport à la concurrence ?
Je peux pas faire comme ça parce que... pour respecter d'abord ceux qui sont en place, essayer de voir, mais surtout se baser beaucoup sur les conditions de vie des chauffeurs.
Mmh. Ça va quand même vous coûter plus cher au départ, donc vous allez faire payer plus cher le transport, si vous payez plus cher vos transports, si vous avez des cars en très bon état, très bien entretenus, forcément vous dépensez plus que les autres.
Parce que c'est une société qui est basée en Europe et qui a une filée en Afrique, donc il n'y a pas de perte à ce niveau, puisque nous rattrapons cela dans un groupe de fonctionnement.
Mmh. Alors, je sais que vous avez déjà, en tout cas, vous êtes bien avancé, vous avez déjà acheté 4 cars de 50 places, hein, c'est ça ?
Oui, j'ai acheté 4 cars de 50 places.
Ce sont des véhicules d'occasion ?
Ouais, c'est des cars d'occasion.
D'accord. Quelles sont vos questions à Didier Akouete, Nasser ?
Ben, les questions que je veux poser exactement à M. Didier Akouete, c'est comment faire ne pas tomber dans un système de pot de vin en Afrique pour pouvoir faire les papiers de mon entreprise ? Et de deux, vu la situation politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est vraiment stable pour investir assez d'argent en Côte d'Ivoire ? Demandez aussi à M. Didier Akouete, quels sont les conseils qu'il peut proposer à quelqu'un qui a après plusieurs années passées en Europe qui insiste à investir dans son pays ?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait ? Quelle est la question que vous vous posez par rapport à la Côte d'Ivoire pour conduire cette entreprise ?
Bon, voilà, la communication avec des gens qui vivent déjà en place, parce que déjà, le plus souvent, ils se sentent un peu... parce que ceux qui viennent de l'Europe, Voilà, c'est pas la même manière de voir les choses, parce que les gens n'acceptent pas beaucoup la vérité en Afrique. Ceux qui lui disent la vérité à quelqu'un, il va prendre normal. Pourtant que pour évoluer, il faut de la vérité à ton prochain.
Et donc, vous, Nasser, vous êtes ivoirien, mais vous vivez depuis longtemps en Europe. Quand vous retournez en Côte d'Ivoire, vous vous sentez considéré comment?
Ben, je me considère comme un ivoirien, mais avec la communication avec les gens, souvent, ils te disent que il y a des vérités qu'on ne dit pas.
C'est quoi l'expression?
Que nous, on réfléchit comme les peaux grattées.
Les peaux grattées. Tout bab au Sénégal, c'est ça?
Voilà, tout bab au Sénégal, que tu réfléchis comme un blanc, parce que en Afrique, tu vois, quand il y a le droit des nesses qui existe beaucoup, le petit n'a pas le droit de dire certaines vérités au plus grand, pourtant que voilà, c'est ce qui se passe en Europe ici. Quand tu demandes service à quelqu'un, quand il ne peut pas, il te dit véridiquement non, je ne peux pas.
Bon, Didier Akouété est en train de prendre mes notes, là, il réfléchit à comment vous répondre. Nasser m'a demandé, d'ailleurs, tout à l'heure, si vous étiez une peau grattée, Didier.
Bonjour, Nasser. Écoutez, je crois que le projet tel que vous l'avez élaboré, bon, même si j'ai pas vu, malheureusement, un vrai projet économique derrière pour l'instant, vous avez quelques chiffres, mais peut-être déjà dans un premier temps, avant de répondre à vos questions, le projet en lui-même, c'est clair qu'il y a un marché potentiel de transport d'individus, en particulier d'élèves. Si votre offre est en termes de sécurité et de fiabilité bien structuré, les parents et les écoles feront confiance, parce qu'en réalité, vos prescripteurs, ce sont les écoles, si j'ai bien compris, dans votre modèle, et puis les parents, entre guillemets, derrière, sont rassurés par le fait de savoir que l'école contracte avec la société X ou Nasser, parce qu'elle est sérieuse, les cars sont en bon état, etc. Donc, sur le principe du projet en lui-même, je pense qu'il y a un marché. Après, la deuxième question que je me pose, et Emmanuel l'a posé indirectement, l'analyse du marché, l'analyse concurrentielle, comment vous l'avez faite? Vous dites, bon, je vais pas me casser les prix parce que j'ai pas envie de gêner les concurrents qui sont là depuis longtemps. C'est pas une réponse satisfaisante quand on est, c'est vrai, en business. Si vous me dites, mon prix va être positionné comme les autres, parce que non seulement je suis pas plus cher qu'eux, mais j'apporte des éléments de différenciation.
C'est vrai, Nasser, parce qu'on comprend pas bien comment vous allez vous positionner.
Comme la qualité de mon produit, la fiabilité, puis d'autres éléments que vous pourrez ajouter. Je me disais, par exemple, si vos cars sont aussi en bon état, pourquoi est-ce que vous n'avez pas une différenciation majeure, comme par exemple, vous allez appeler vos cars les cars pédagogiques, c'est-à-dire que pendant que les enfants sont dans le car, il y a peut-être un enseignant qui raconte des histoires, il y a peut-être un écran de projection où vous leur passez des dessins animés, mais historiques, hein, sur l'histoire africaine, sur des mathématiques gentilles ou la géométrie. Bref, trouver un positionnement qui, par-delà le prix, vous permet d'avoir une position différente des autres sur le marché. Donc, bon, je parlais de cars pédagogiques ou de cars apprenants, ou par exemple, que les parents puissent à tout moment savoir il est avec un système de GPS. Parce que la question de la sécurité, de la fiabilité est extrêmement importante lorsqu'on confie ses enfants à un transporteur. Donc, peut-être un système de GPS qui permet de suivre à tout moment le car où il est pour assurer les parents. Bref, je voudrais vraiment que vous nous trouviez des éléments de différenciation en dehors du prix. Maintenant, pour revenir à vos trois questions, sur la première question, sur les pots de vin, ça, malheureusement, je peux pas beaucoup répondre, parce que vous pouvez parfaitement tomber sur des agents, sur des fonctionnaires extrêmement sérieux, qui ne vont pas vous demander des pots de vin, mais en tout cas, sachez qu'au niveau de la douane, vos camions, vous allez payer une certaine somme, parce que malheureusement, la douane en Côte d'Ivoire aujourd'hui, de mon point de vue, est assez élevée lorsqu'on importe des véhicules et de la marchandise. Donc ça, je ne sais pas si vous êtes bien renseigné. C'est à ce niveau-là que vous allez, à mon avis, avoir un peu de tracasserie pour faire rentrer vos cars et peut-être payer le prix fort. Mais si vous êtes en partenariat avec des écoles un peu reconnues qui soutiennent votre projet, ça peut peut-être faciliter au niveau administratif l'installation de votre compagnie et le fait qu'on ne vous fasse pas trop de tracasseries. Si par exemple, je sais pas, l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne ou de Bruxelles européenne trouve que votre projet est extrêmement intéressant pour la sécurité des enfants, ça peut peut-être vous aider à passer entre les méandres de l'administration.
Sur la situation politique, la stabilité économique ou pas pour investir.
Sur la situation politique, tout le monde espère que la Côte d'Ivoire va rester stable et qu'on n'aura pas de crise majeure comme celle qu'on a connue. Mais alors, c'est une boule de cristal dans laquelle je lis pour l'instant.
Non, mais sur le management, ça c'est intéressant.
Et la troisième question.
Un Africain de la diaspora qui veut investir dans son pays d'origine.
C'est sa troisième question. Alors,
et gérer et manager.
Il est extrêmement important d'être proche de votre projet. Vous ne pouvez pas faire ce projet en restant aux Pays-Bas malheureusement et en déléguant la gestion parce qu'il y a eu beaucoup de déconvenues, de projets d'Africains, la diaspora qui investissent, envoient de l'argent, envoient du matériel, envoient des voitures et à l'arrivée, quand ils y vont un an après, ils ne trouvent plus grand-chose. Donc, si vous voulez vraiment conduire ce projet,
gratter, c'est ça.
Sérieusement, vous devrez vous investir, même la famille, même les amis, c'est bien, mais vous devrez être malheureusement très présent. Après, sur le management, vous avez des gens sérieux qui gèrent des entreprises en Afrique. Alors, la taille du projet, pour l'instant, c'est 5 bus, donc avec 1 million ou 10 millions, bref. Il faudrait que vous puissiez trouver un partenaire local que vous associez au projet, qui met autant de billes que vous dans l'affaire et qui peut gérer l'affaire comme vous l'auriez géré si c'était vous-même, sinon vous risquez d'y perdre des plumes. C'est pas une question de management à l'africaine, c'est une question de sérieux, de trouver un partenaire qui met des billes avec vous, avec un gestionnaire
Et d'être crédible sur le terrain, évidemment, hein.
Qui gère le projet sérieusement, avec un conseil de surveillance ou un conseil de gouvernance sans être une société anonyme, mais en tout cas que vous ayez une équipe qui regarde de près le projet au quotidien, sinon vous risquez de perdre des plumes.
Nasser, j'espère que vous avez pris des notes. Merci beaucoup pour votre projet. Bien sûr, vous nous tenez au courant. Je rappelle le numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, on accueillera Nicolas qui est en région lyonnaise. Chez 7 milliards de voisins, Plan B. Nous sommes en compagnie du coach Didier Akwété aujourd'hui. On vous écoute, on vous conseille, vous qui avez des projets d'entrepreneuriat pour le continent africain, que soyez jeune diplômé ou un peu plus expérimenté. On entendait tout à l'heure le projet de Nasser, de la diaspora africaine, ivoirienne, aux Pays-Bas, avec un projet de transport scolaire. Fallait y penser, mais c'est une super idée, hein. Revoir peut-être un peu le modèle économique, hein, Didier.
Oui, en fait, on n'a pas bien compris le modèle pour l'instant.
Voilà. Bon, enfin, c'est à mon avis, c'est un projet qui peut avoir de l'avenir s'il est bien géré. Nicolas, on l'accueille à l'antenne chez 7 milliards de voisins. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour. Merci de m'accueillir sur votre antenne.
Alors Nicolas, vous avez 34 ans, vous êtes à Lyon, vous dirigez une entreprise, une société à l'origine spécialisée dans la maintenance de logiciels médicaux. Vous n'avez pas de relation directe, je dirais complètement familiale avec le continent africain. Vous êtes français à Lyon et vous avez un projet pour le continent. Expliquez-nous.
Notre projet, il est né d'une idée simple, c'est que l'un de mes contacts c'est un praticien français qui exerce au Togo et qui m'a appelé pour me demander s'il existait des logiciels de suivi patient simplifiés pour son activité qui est de former des médecins africains, de jeunes médecins pour les former, pour qu'ils aillent en brousse pour soigner des patients.
Voilà, un logiciel donc de traitement des données de patients, hein, ce qu'on a dans les cabinets en Europe. On y revient dans quelques instants, on rend l'antenne pour le flash, mais on revient tout de suite après les infos sur RFI avec votre projet et les conseils du coach Didier Akwété.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, avec le coach pour dialoguer avec les jeunes diplômés ou les moins jeunes, en tout cas qui ont envie d'entreprendre sur le continent africain. Il faut de la vision, il faut de la rigueur, il faut du talent pour surmonter les difficultés, mais rien n'est impossible, Didier.
Absolument rien, c'est le continent de tous les possibles.
Surtout avec les conseils et les encouragements. Donc du coach, vous nous appelez si vous avez un projet au 33 1 84 22 71. 71, c'est très simple, vous téléphonez, Jonas prend votre appel, votre numéro de téléphone, et il vous rappelle ensuite. Ensuite, très rapidement, pour vous faire passer à l'antenne, 7 milliards de voisins, on est ensemble jusqu'à la fin de l'émission avec vos projets. On reprend Nicolas qui était en ligne avec nous juste avant le flash. Nicolas, 34 ans, à Lyon. Donc, vous êtes informaticien à l'origine. Vous dirigez une petite entreprise spécialisée dans la maintenance de logiciels médicaux. Vous avez été contacté donc par un médecin à Lomé, c'est ce que vous nous disiez avant le flash, qui vous dit qu'il y a un grand besoin au Togo, et pas seulement, hein, je présume, de logiciel de traitement des données des patients. Alors expliquez-nous en quelques mots comment vous voyez les choses.
Alors, les choses elles sont relativement claires, c'est qu'il y a beaucoup, il y a une offre logicielle pour le suivi patient qui est très développée pour le monde occidental, avec des systèmes pour le suivi de la carte vitale par exemple pour la France, et c'est pas du tout adapté aux besoins qu'ils ont en brousse, notamment parce qu'ils n'ont pas d'adresse postale fixe et des champs à remplir qui sont différents des nôtres.
Et pas forcément de sécurité sociale, pas forcément de mutuelle, etc.
Exactement, les règlements sont pas tout à fait de la même manière, ils font des crédits, ça fonctionne pas comme en Occident. Et la demande de ce praticien était très simple, c'était d'avoir un logiciel qui est bien plus proche de la réalité du terrain, qui s'embarrasse pas de l'impression. C'est pour leur éviter de trimballer tous leurs papiers avec eux et d'avoir simplement un ordinateur et d'avoir l'intégralité des informations importantes.
C'est ça,
pour
parce
faire
que
consultation.
Voilà, on est bien d'accord que sur le plan médical, le médecin a besoin de stocker les dossiers de ses patients. C'est très important pour l'historique des patients.
Antécédents familiaux, pour faire de l'épidémiologie.
Alors vous pensez à quoi en tant qu'entrepreneur ?
Je pense déjà dans un premier temps, on parlait d'humanitaire, c'était une manière de faire un projet pilote, donc de définir les réels besoins du terrain, parce que nous ici, bon, j'ai une bonne idée de ce dont on a besoin, mais je suis allé que deux fois sur le continent africain et j'ai pas pratiqué de maintenance informatique là-bas. Ce qui est ressorti des contacts avec le praticien togolais, c'est qu'ils avaient un cruel manque de matériel, des problèmes d'accès internet et pas de logiciel autonome et simple à utiliser et pour la formation des praticiens et pour la maintenance du logiciel en lui-même.
Donc réel besoin, mais ce que je comprends pas bien, vous dirigez là vers un projet humanitaire quand vous parlez de distribution gratuite d'un logiciel, ou derrière ensuite vous avez une idée business?
L'idée première, c'est de faire comme je dis, un projet pilote humanitaire pour tester la viabilité du projet, en faire profiter les plus nécessiteux, et s'il s'avère que le projet est pertinent et fonctionnel, ça a amené le projet à le vendre à des structures privées telles des hôpitaux, des cliniques, des cabinets, des praticiens de ville qui ont parfois les mêmes problématiques que la médecine de brousse, mais qui sont pour le coup privés et à même de payer.
Finalement, éprouver le logiciel sur un marché de l'humanitaire et ensuite peut-être le vendre sur un marché privé de la médecine privée, c'est ça?
Voilà, pour essayer de faire quelque chose de gagnant-gagnant. Faire des centres de formation pour former des techniciens informatiques pour réparer des logiciels. Les débouchés dans ce domaine sont assez vastes et le domaine d'application, il est colossal.
Ouais. Bonjour Nicolas. Non, juste pour savoir, quels sont les logiciels ou les progiciels que les médecins utilisent aujourd'hui sur le terrain? Parce que je sais que certains médecins en Afrique ont des applications qui tournent sur leur machine pour le suivi de leurs patients. Oui. Une analyse du marché, qu'est-ce que ça vous a révélé?
Sur le continent africain, les praticiens français utilisent les logiciels qu'ils utilisaient en France. Et ils les adaptent à l'usage local et ça les arrange pas parce que d'abord c'est des logiciels payants, donc c'est très difficile d'obtenir des licences et elles sont à des coûts qui sont adaptés aux revenus des médecins européens, donc ils peuvent pas se les procurer et ils sont trop compliqués. Il y en a d'autres qui sont gratuits, mais qui ont le même problème de complexité. Donc, dans tous les cas de figure, ils ne répondent pas vraiment à la problématique du terrain.
Ouais. D'accord. Sur le terrain, il y a de plus en plus quand même de sociétés informatiques, de tout petits éditeurs, hein, des petites sociétés qui développent beaucoup d'applications. Est-ce que vous avez approché des petites sociétés qui développent déjà des applications pour voir s'il n'y a pas... un partenariat possible.
Des recherches que j'ai faites sur internet, puisque bon, j'ai malheureusement pas les moyens de prendre l'avion pour aller voir tout de suite les gens, mais des recherches que j'ai menées, on a trouvé des logiciels open source, qui veulent dire gratuits, mais ils sont tous beaucoup trop étoffés. Peu importe à la limite le prix qui coûte au départ, ils sont trop étoffés en termes de fonctionnalité. Ils s'éloignent du besoin du dispensaire.
Et alors finalement, là, pour avancer un peu sur ce projet, qu'est-ce que vous sollicitez comme conseil de Didier ?
Alors, pour valider ce projet, il faut définir un budget et qui n'est pas le même qu'on fasse 10 machines, 100 machines, 1000 machines. Et cette demande, on va pouvoir la préciser qu'en ayant des contacts. On a mis des formulaires en ligne à la disposition de 21 ambassades françaises dans les pays francophones et on n'a eu qu'un seul retour. Alors,
on
pose la question du canal. Or, le retour a été très
pertinent. On appelle ça la diplomatie économique.
Le retour qu'on a eu, c'était un docteur qui était installé au Gabon et son retour était intéressé et pertinent. Le problème, un retour, ça nous fait deux échantillons pour toute l'Afrique, je trouve ça un peu court.
Il y a des associations professionnelles, de médecins qui existent dans la plupart des pays, hein, qui sont des relais, d'autant plus que beaucoup ont étudié à l'étranger, dont la France, et qui sont sensibles à ce que vous essayez de faire et qui eux-mêmes déjà, pour certains, utilisent l'application. Donc, je pense qu'en passant déjà par ces associations professionnelles, vous pourriez déjà avoir un retour plus qualitatif, qui en plus est sur du volume, puisque généralement ils sont tous membres de ces associations. Ça donnera déjà, je pense, une bonne première idée du marché.
Donc ça peut être des associations professionnelles d'ailleurs par spécialité en France où ils travaillent en coopération avec le continent africain, des choses comme ça, hein, c'est ça.
Bien sûr, même des associations locales
et même professionnelles,
médecins, puisqu'ils sont tous regroupés dans des associations professionnelles.
Nous, côté programmation et montage machine, trouver des solutions de financement, ça va être notre partie, mais en admettant que ça aboutissent, d'être sûr que les machines qu'on envoie, elles arrivent dans les bonnes mains, dans les bons dispensaires, c'est quelque chose qui m'est totalement étranger sur ce continent. Bien que j'y ai posé les pieds en tant que touriste, c'était pas pour le boulot.
En passant par des associations professionnelles, en principe, ça fonctionne, par
des
CHU, etc.
Non, et puis même, il y a la partie hard et la partie soft. Vous, je crois que vous êtes plutôt sur la partie soft.
Aimerait bien envoyer un kit, si vous voulez, on aimerait bien envoyer une machine très simple, fiable, avec le logiciel préinstallé pour qu'ils aient une totale autonomie. Parce que ce qu'on a compris également, c'est que parfois ils avaient Internet, mais ils ont surtout un Internet qui n'est pas toujours de bonne qualité. Donc qui ne permet pas de télécharger complètement les logiciels qui sont très volumineux, les mises à jour. Et l'idée, c'est d'envoyer un package avec une machine, le logiciel préinstallé, et simplement à rentrer le nom du praticien, où il habite, et lui-même créera sa base patient au fil de ses consultations.
Dès que vous rentrez dans du hard, en termes de logistique, ça devient tout de suite un peu plus lourd. Donc si déjà votre marché test, c'est des médecins de ville, par exemple, admettons, pour voir si l'application tourne et est d'une certaine utilité. Dans les villes, ils ont accès à Internet, envoyer un lien pour qu'ils le téléchargent. C'est peut-être déjà un peu plus simple.
J'ai mis en ligne une version moderne pour le praticien, le premier qui m'a contacté pour le dépanner. Et résultat, il m'a dit, j'ai pas pu le télécharger, c'est trop lourd.
C'est quoi? C'est 1 giga, c'est 200 mégas?
C'est 3 gigas, donc ils ont des
forces avec lourd,
les 3G. C'est des systèmes relativement complexes.
Là, excusez-moi, vous parlez technique, il y a des solutions là-dessus. Sur le modèle économique, démarrer avec une espèce de logiciel qu'on distribue plutôt sur un projet humanitaire et ensuite avec une ouverture business sur un marché privé de médecins qui effectivement ont besoin de logiciels de traitement des données des patients. Comment vous voyez les choses, Didier, en quelques mots?
Si le produit répond à un besoin, il n'y a même pas besoin de passer par la phase humanitaire. C'est-à-dire, si vous êtes en relation avec des associations professionnelles...
Vous voudriez qu'il y ait un associé africain, vous, dans l'histoire?
Forcément.
Il faut un associé africain.
D'autant plus qu'après, en matière de maintenance, vous n'allez pas prendre l'avion tous les jours de Lyon pour aller faire la maintenance. Donc, il faut des partenaires locaux qui vont aider à approcher le marché, à parler aux médecins, à les aider à installer, à assurer la maintenance. Et c'est peut-être après, sur la maintenance, que vous allez peut-être gagner de l'argent. Parce que si le logiciel aussi évolue, il y a un contrat peut-être après de maintenance.
Un logiciel médical pour les médecins en Afrique francophone, c'est une bonne idée, ça peut se développer, il y a des débouchés.
Ça peut se développer, il y a des débouchés, et puis surtout, je pense que derrière, c'est arriver à consolider toutes ces données pour sortir des statistiques sur les pandémies, sur les maladies, sur les traitements, et ça va intéresser aussi les ministères.
Merci beaucoup Nicolas, vous nous tenez au courant surtout pour le développement de ce logiciel médical pour les médecins en Afrique francophone.
16 milliards de voisins, tous les mois, avec le coach Didier Akwete.
03-1-84-22-71-71. C'est simple à retenir, c'est 7 milliards de voisins. Et on accueille Michel, un voisin, 31 ans, informaticien à Libreville au Gabon. Bonjour Michel.
Bonjour Emmanuel.
Michel,
bonjour.
On est ravis de vous accueillir, Michel. Alors, vous êtes plus précisément plutôt vendeur dans l'informatique et la téléphonie. Vous êtes Camerounais d'ailleurs, à Libreville, au Gabon. Vous venez d'une famille d'informaticiens, hein, et vous aussi. Et vous avez un projet de logiciel. Ah oui, on a deux projets de logiciel aujourd'hui, Didier. Hein, pour sauvegarder des photos, des vidéos, des données et pouvoir les récupérer également. Donc, de la sauvegarde, de la récupération de données sur smartphone. C'est bien ça? Vous nous expliquez en quelques mots, manière un peu imagée.
Je me suis rendu compte que la majorité de mes clients, quand ils arrivaient dans la boutique, me disaient toujours, ma carte mémoire s'est effacée, j'ai effacé les données. Et il y a des mamans qui me disent, non mon fils, j'ai immortalisé le deuil de mon mari là-dessus, je ne sais pas quoi faire. D'autres mamans qui disent qu'elles ont immortalisé la naissance de leurs enfants. Elles sont prêtes à payer n'importe quel prix pour récupérer leurs données.
Ouais, je suis sûr que ça vous est arrivé, Didier, de perdre des données, non?
Je sauvegarde en ligne.
D'accord.
Bon, maintenant, c'est un logiciel qui va gérer tout ça à la fois. La sauvegarde aussi des répertoires. Parce qu'ici, à Libreville, quand vous perdez votre puce et votre téléphone, quand vous allez récupérer, on ne vous remet pas tout au numéro de téléphone. Vous n'avez pas la possibilité de récupérer vos numéros. Le numéro est important.
Ouais, d'accord.
Et en cas de perte ou de vol de votre smartphone également, cette application va aussi gérer ça.
D'accord. C'est un logiciel que vous allez vendre et qu'on connectera au smartphone et à l'ordinateur de base, hein, c'est ça?
On va juste mettre un code à l'intérieur de votre téléphone. Celui qui sera intéressé, on met juste, on tape un code à l'intérieur de votre téléphone et ça envoie les informations au niveau du serveur. Donc maintenant, ça va sauvegarder toutes vos données. Lorsque vous avez n'importe quel problème, vous allez seulement vous revenir seulement au niveau de l'agence et puis on vous redonne toutes vos données.
Ouais. Le logiciel, vous l'avez déjà créé, hein, Michel? Il est opérationnel.
Oui, oui.
Alors,
il est opérationnel.
Quelles sont vos questions à Didier?
Comment faire pour étendre la vente de mon logiciel?
Vous vous demandez si vous commencez uniquement à Libreville, c'est ça? Ou si directement vous essayez de le commercialiser dans d'autres pays de la sous-région?
Oui, oui, c'est ça.
Et puis, l'autre question?
Dans mon pays, au Cameroun, d'autres copient mon projet, quoi. Et puis, quand j'arrive sur le terrain, je ne pourrais plus être leader du marché.
Bonjour, mais vous avez commencé à commercialiser le logiciel? Vous avez déjà un petit échantillon qu'il a utilisé?
Je n'ai pas commercialisé. Il y a peut-être 50 personnes, mes amis, qui l'utilisent. Bon, je suis en train de tester. Il faut que ce soit OK. Pour qu'il n'y ait pas de couac.
Il est en phase de test, hein,
bon,
pour le moment, c'est ça. Pour l'instant, en tout cas, vous avez la certitude, il y a un vrai besoin. Hein, vous avez décrit quelques scènes apocalyptiques où les gens perdent toutes les photos de leur mariage. Ça, on est bien d'accord. Hein, ou le carnet d'adresses dans le smartphone, etc. Le logiciel, vous avez prévu de le vendre 3000 francs CFA, c'est ça?
3000 francs CFA, renouvelable après 2 ans.
Valable 2 ans, c'est ça. Et après, vous voulez commercialiser des contrats de maintenance, des choses comme ça, derrière?
Oui, oui, ça va venir après.
Vous aviez aussi une inquiétude concernant du plagiat possible?
Oui, oui.
Ouais, mais enfin, il y a déjà énormément de logiciels de ce type qui existent.
Oh, exactement. Des produits comme ça, on en invente tous les jours dans le monde. Donc, a priori, c'est un logiciel qui répond certainement à un besoin. Après, c'est le mode de commercialisation que j'ai pas du tout compris. D'abord, vous êtes en phase expérimentale, donc bien sûr, faut s'assurer que le logiciel tourne bien et qu'il n'y a pas beaucoup de bugs. Mais surtout, après, je n'ai pas vu de business plan. C'est-à-dire, comment vous allez commercialiser? Vous parlez du Gabon, d'autres pays africains. Vous avez prévu d'utiliser un réseau de distributeurs. Vous avez prévu de faire une campagne de communication. Comment les gens vont payer avec leurs unités? Enfin, il me manque un peu d'informations. Mais sur le principe, c'est vrai que le projet est intéressant. Après, si vous avez un opérateur qui est votre partenaire dans le projet et qui, lui, ou les opérateurs, dès que quelqu'un s'abonne, le logiciel fait partie de son kit de sauvegarde, ou dès que quelqu'un achète une puce, automatiquement, on lui dit, bah voilà, il y a ce logiciel que vous pouvez télécharger.
Sauf que tout le monde n'est pas abonné, hein, quand même.
Données. Non, mais c'est pas, même quand vous prenez une puce en prépaid, quand vous allez commercialiser, quel est votre réseau? C'est-à-dire, le logiciel sera disponible chez les revendeurs qui vendent des téléphones, qui vendent des puces, qui vendent des recharges. Les opérateurs téléphonie sont vos partenaires pour diffuser le produit. Parce qu'en fait, vous êtes sur un marché où ça va très vite. D'autres ont déjà ce logiciel déjà qu'ils utilisent. Donc, si vous n'avez pas un partenariat stratégique qui vous garantit un volume assez rapidement et vous derrière, votre job c'est de faire l'innovation, le produit mourra assez rapidement quoi.
Michel, il faut que vous retravaillez un petit peu votre projet, mais on vous reprendra dans l'émission, surtout vous nous tenez bien au courant, puis j'espère que vous avez pris des notes hein, concernant les conseils de Didier Akwété. Sur l'informatique c'est pas simple, hein. Il faut quand même pas mal bétonner le projet sur le plan commercial, même si on ne doute pas de la fiabilité de votre logiciel et puis des besoins hein, autour de vous, ça c'est sûr que bon, on a de plus en plus besoin de sauvegarder ces données. Merci infiniment, bonne chance Michel.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Le monde est un village planétaire.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures.
Malgré toutes nos différences, il y a toujours quelque chose, quelque part, qui nous rapproche.
Eh ben tiens, il y a quand même une émission qui pense à tout le monde.
Il y a tellement de richesses ailleurs.
7 milliards de voisins, entre nous là, entre les voisins.
7 milliards de voisins ?
Oui.
C'est maintenant.
7 milliards.
Nous sommes en compagnie du coach Didier Akwété aujourd'hui. On vous écoute, on vous conseille, vous qui avez des projets d'entrepreneuriat pour le continent africain, que soyez jeune diplômé ou un peu plus expérimenté. Alors moi, quelque chose me frappe quand même aujourd'hui, Didier. On a reçu plusieurs projets, on n'a pas de business plan. On n'a pas de business plan. Est-ce qu'il faut toujours faire un business plan quand on a un projet business sur le continent africain? À partir aussi de quelle taille de business il faut envisager un business plan? Et puis pourquoi faire et comment on le fait? Parce que ça, c'est une question que se posent beaucoup de voisins et de voisines.
En fait, le business plan, c'est pas de la magie. Hein. C'est simplement, quel que soit le projet qu'on élabore, c'est simplement de savoir comment on va faire ce projet. On parle de milliardaires qui n'ont jamais fait de business plan en Afrique, qui ont réussi pour autant. Donc, on peut vivre sans business plan. Mais en réalité, quand on fait un projet, quel qu'il soit, en gros, c'est de dire, voilà mon marché, voilà mon produit, voilà comment je vais le commercialiser, voilà mes avantages, voilà mes concurrents, etc.
Le monde avec un business plan, ça peut marcher beaucoup mieux. En tout cas, c'est le credo de Didier Akwété. On écoute votre mode d'emploi, vos explications, juste après New Name, Sinkan. Oh milliards de voisins avec le coach Didier Acouetté. On vient d'entendre New Name chez 7 milliards de voisins. Alors, le monde, selon Didier Acouetté, ça se passe avec un business plan. Je vous posais la question juste avant. Pourquoi il faut faire un business plan? Là, aujourd'hui, nos projets sont arrivés comme ça, hein, au téléphone. Ils ont réfléchi, bon, mais ils n'ont pas de business plan pour la plupart.
Le business plan aide. Je dis pas que c'est la solution, puisqu'il y a bien des personnes qui ont réussi leur projet sans business plan, mais qui ont un business plan dans la tête. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire à quel marché je m'adresse. C'est la première question. Pourquoi je décide de me lancer dans ce projet? Peut-être parce qu'il y a un marché. Peut-être que le marché n'existe pas, ou peut-être qu'il y a trop d'acteurs sur ce marché. Donc le business plan aide simplement à structurer son projet et à y voir plus clair soi-même, parce qu'au moins, on a une feuille de route. C'est à ça que ça sert. Et puis surtout, quand on n'a pas d'argent, ça permet d'aller convaincre un banquier, d'aller convaincre des financiers que c'est pas une idée farfelue, mais c'est une idée qui a été pensée. Donc, en gros, le business plan va vous aider à dire « voilà mon marché ». Le monsieur, par exemple, qui veut mettre des cars scolaires, eh ben, il faut qu'il soit capable de dire, aujourd'hui, le marché des élèves que je veux transporter, c'est 100 000, c'est 200 000 élèves, et il y a 5 sociétés qui font la même chose, qui ont 200 cars sur le marché et qui n'arrivent qu'à transporter 20% du marché.
C'est ça. Donc, il faut penser quantité,
évidemment,
en permanence,
donc, proportion. Il y a 80% du marché qui n'est pas satisfait. Ensuite, je vais me dire, mais, pourquoi les 80% ne sont pas satisfaits? Est-ce que c'est une question de moyens, une question de coûts, une question de distance, une question de disponibilité du service? Bref, je me pose toutes ces questions, je pose ces questions au marché, j'ai dit, ah, et ben en réalité non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de camionnettes, ou c'est parce que les prix sont trop élevés, ou les distances sont trop courtes, etc.
J'aime bien quand vous faites le dialogue avec le marché, je pose des questions au marché, le marché me répond.
Ben bien sûr, c'est ça, c'est-à-dire le marché, c'est les acteurs, c'est les parents, c'est les écoles qui sont le marché.
Les clients, oui.
Exactement. Et à partir de là, vous dites, bon, là, je crois que j'ai un marché parce qu'il n'est pas bien adressé. Le marché n'est pas satisfait. Donc, je vais prendre des cas pour répondre à tel segment de clients et leur proposer tel et tel service parce que dans mon étude de marché, j'ai constaté qu'ils n'avaient pas ce service-là. Maintenant, dans mon business plan, je vais dire, très bien, pour pouvoir aller vers ces gens, leur proposer mon produit, comment je vais faire? Est-ce que je vais écrire aux parents? Est-ce que je vais écrire aux écoles? Est-ce que je vais trouver un partenaire qui est le ministère de l'Éducation nationale, etc. Bref, je vais faire une stratégie de développement et ce qu'on dit access to market, c'est-à-dire comment mon produit va rentrer sur le marché. Donc, est-ce que j'ai des prescripteurs? Est-ce que c'est des clients directs? Ensuite, comment je communique vers ces personnes-là? Comment je fais pour les fidéliser? Donc, le business plan, en réalité, vous aide à organiser toutes ces informations et puis à vous dire, mais finalement, de quoi j'ai besoin moi-même comme ressources? Ressources humaines, ressources techniques, ressources organisationnelles, ressources financières, et quel calendrier? Donc, lorsque vous allez voir le banquier, déjà, vous-même, vous comprenez mieux votre projet, les failles de votre projet, et il y a un fameux document qu'on utilise dans toutes les analyses de projet, c'est en anglais on dit SWOT, c'est forces et faiblesses du marché, opportunités et faiblesses. Donc, vous faites une analyse, vous dites, voilà mes forces moi-même, voilà mes faiblesses, voici les opportunités et voici les menaces du marché. Donc, vous faites un beau tableau avec
ça
tous ces éléments.
Ça ressemble à un jeu vidéo, là, ce que vous me racontez.
Bah, aujourd'hui, oui, en fait, vous pouvez le cartographier sous forme de jeu vidéo.
Une idée de jeu vidéo avec pour faire un business plan, ça serait fabuleux.
Ah, ça serait fabuleux. Ah. Aujourd'hui, bon, ça existe sous forme informatique. Mais vous savez, les jeux vidéo, en réalité, quand vous donnez un jeu vidéo à un enfant, comment il fait? Il analyse ses forces et ses faiblesses. Il regarde les opportunités, les menaces, et puis il commence à jouer avec les manettes. C'est exactement ça aussi un business plan. Donc, dans le business plan, cette fameuse analyse qu'on retrouve partout, dans toutes les écoles de commerce, dans toutes les analyses, vos forces, vos faiblesses, les opportunités, les menaces, vous permettent d'ajuster, positionner et de prendre la meilleure stratégie pour vendre votre produit au marché et du coup d'aller convaincre vos partenaires financiers ou stratégiques.
Pour donc résumer, Didier Acouetté, un business plan, vous qui êtes l'homme des business plans, comprendre le marché, ensuite entrer, donc parler et convaincre, hein, entrer sur le marché, avec qui, en combien de temps, et puis les forces, les faiblesses.
Avec quelles ressources? En fait, les forces, faiblesses, les menaces, opportunités vous permettent de positionner votre produit et d'avoir une stratégie qui permette de contourner en fait tous ces éléments.
Donc, les plus grandes faiblesses que vous voyez dans les business plans, en deux mots, que vous voyez passer?
Alors, souvent, je comprends pas comment ils vont gagner de l'argent.
C'est C'est embêtant.
Non, oui, donc le modèle est que je comprends pas. Et puis l'analyse concurrentielle est extrêmement faible. C'est-à-dire on ne sait pas qui sont les acteurs, on ne sait pas ce que font les acteurs pour nous permettre
dans un
de
jeu
nous
vidéo,
positionner durablement.
Ça n'existe pas, ça.
Mais si, ça existe. Quand vous rentrez dans une brousse, on dit faut aller tuer l'ennemi. Et ben vous essayez de savoir qui sont vos ennemis. C'est la première des choses. Après vous voyez quelles sont vos armes. Moi je vois les enfants jouer. Est-ce qu'il prend un pistolet, est-ce qu'il prend un bazooka, est-ce qu'il etc. Bon. C'est la même chose.
Bon, j'exagère un peu. Vous revenez le mois prochain, on fera un autre chapitre sur le business plan. J'aime comme vous vous animez.
Avec
quand
plaisir.
Vous parlez des business plans, vous revenez, hein, bien sûr.
Avec joie, Emmanuel.
Les voisins, vous êtes formidables quand même. Hein. On croit en vous parce que vous avez de nombreuses idées qui sont toujours extrêmement variées. Alors Didier, hein, quelquefois, n'est pas tendre. Hein. Il faut dire, il vous dit souvent, il faut revoir la copie.
Plus
mais...
tendre que le banquier. Hein.
Voilà. Et les voisines aussi, d'ailleurs, vous pourriez peut-être de temps en temps vous montrer en futur chef d'entreprise. On ne vous entend pas assez. Hein. Ça, c'était un petit message. Ça serait super aussi. Pour envoyer vos projets, si Didier à côté vous a donné la niaque pour entreprendre sur le continent africain, 7milliards@rfi.fr ou bien le numéro de téléphone du standard 33 1 84 22 71 71. Didier, on vous revoit le mois prochain, peut-être entre, sûrement d'ailleurs, entre deux avions. Et grâce à 7 milliards de voisins, vous commencez super bien l'année là.
Hein, ah bah vu. Là, c'est une année qui s'annonce pleine de vie.
Très belle année 2015.
Merci Emmanuel, à vous aussi.
Cette
et
émission
à nos auditeurs.
Était préparée par Jonas Malé-Solars, qui dialogue avec les porteurs de projets, Cécile Lavolo, Romain Dubrac à la mise en onde. On se retrouve lundi chez 7 milliards de voisins sur RFI, bien sûr.